Il est toujours question de la grâce de Dieu. Mais souvent, cette notion n'est pas très bien comprise par l'Église. Y compris même moi qui suis votre pasteur, à un moment donné. Il a fallu que Dieu vienne. Il ouvre encore d'autres aspects. Parce que nous vivons une période dont l'urgence du temps commande que certains concepts, parfois religieux, que nous avons, puissent être revisités par le Saint-Esprit. Beaucoup de choses avaient été dites qui sont des coquilles. Il y a beaucoup de déchets dans la prédication de la parole de l'Évangile. Et le Seigneur veut nous amener à l'essentiel. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Je crois que ce matin, Dieu va vous faire du bien. Mettez-vous en mode écoute. Asseyez-vous tranquillement et suivez la prédication. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui risquent d'apparaître. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour l'intelligence nouvelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et nous voulons que tout soit pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé ma prédication « Serviteur de la Nouvelle Alliance ». Et quand on entend par « Nouvelle Alliance », on fait allusion à la grâce du Christ, qui est supérieure à la loi. Et j'entends par loi l'ensemble des principes que Dieu a donnés à Moïse lorsque le peuple sortait de l'Égypte pour aller vers la terre de Canaan. Vous allez voir qu'avant, Exode 18 et 19, quand le peuple péchait, il n'y avait rien. Ils murmuraient, n'avaient rien. Le Seigneur les accompagnait malgré leur entêtement. Mais au cours de leur marche, ils ont fait comprendre à Dieu que donne-nous tes lois comme nous avons vu les autres nations. C'est là où tout commence à se gâter. Et vous allez voir ressortir l'aspect de la grâce qui est supérieure à la loi au travers des illustrations auxquelles je vais faire allusion, de manière à ce que les enfants puissent mieux le comprendre et que ça puisse bien nous imprégner. Voyons en quoi la nouvelle alliance, appelée alliance de grâce, est-elle supérieure à l'ancienne alliance qui met l'accent sur la loi dont je viens de vous décrire le profil. Alors lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 8, et d'autres textes qui viendront éclairer nos pensées. Je lis donc. Versets 6 à 8. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Vous voyez déjà une différence, commandements écrits et esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort et l'esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face. Déjà, le ministère de Moïse, quoique insuffisante, quoique imparfaite, a été glorieux, à combien plus forte raison le ministère que Jésus va apporter. Je reprends. Cependant, le ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnant son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux encore? Nous avons une approche de Dieu, dans un premier temps, sous forme de loi, et en arrière-plan, nous avons la grâce. C'est-à-dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et lorsque tu le fais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu tombes sous la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et souvent, c'est comme ça que nous avons une approche de Dieu. Et c'est exactement l'approche païenne. Elle met l'accent sur la sainteté. Et dans toutes les religions au monde, on met l'accent sur la sainteté de Dieu. Quand je dis sainteté de Dieu, je fais la différence entre l'éternel. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu ne met pas l'accent sur la sainteté de lui. Dieu a été présenté comme l'amour. Si l'accent était mis sur la sainteté, c'était dans l'ancienne alliance pour nous amener progressivement vers Dieu. Elle pose les limites à notre capacité à obéir pour nous obliger à tendre la main vers la grâce. La loi de Dieu a été donnée pour nous pousser dans notre dernier retranchement et que nous prenions conscience que nous sommes incapables d'obéir au commandement de Dieu, le tout petit soit-il. La preuve en est que la loi peut condamner le meilleur. Moïse, est-ce qu'il a vu la terre promise? N'est-il pas dit de lui que c'est celui qui parlait à Dieu bouche à bouche, même l'ami de Dieu? David, Dieu l'a-t-il épargné lorsqu'il a commis péché? Et pourtant, c'est le meilleur. En revanche, la grâce peut rattraper le pire du milieu de nous. Si la loi condamne le meilleur, la grâce de Dieu, il rattrape le pire que nous sommes, moi en premier lieu. Et l'apôtre Paul l'a dit. Voilà là où je veux en amener. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans toute sa manifestation, dans la manifestation de sa présence la plus magnifique, nous avons besoin, et comme je le disais tantôt, c'est l'urgence de temps qui le commande, de laisser la grâce divine briller à nouveau dans notre cœur. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous montrer Dieu le Père, pas Dieu qui donne les commandements. Parce que dans la loi, Dieu donne les commandements. Il est comme un père fouettard avec un bâton, qu'à la moindre incartade, ça te tombe dessus. Nous avons besoin que notre vision de Dieu change en tant que Dieu le Père. Nous avons besoin que soit revisité notre concept de pardon, de la croix du Christ. Et même le concept de la grâce, qui n'est pas un vain mot. La grâce, c'est Jésus lui-même. Et nous allons voir. Je vais faire appel à quelques historiques, biographiques, pour que tout cela soit inscrit dans votre esprit. Car ces temps, c'est des moments importants. Il va y avoir un avant et un après ce message pour certaines personnes. Nous, parfois, nous circulons à la périphérie de la grâce de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de pénétrer pour vivre pleinement cette grâce. On ne pourrait être serviteur de la nouvelle alliance que si nous l'avons saisie, nous l'avons comprise, nous l'avons vécue et nous pouvons en témoigner. Car servir signifie témoigner. Et témoigner signifie l'avoir vécu. Le premier point, c'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob, qui est comptée dans Genèse chapitre 25 et Genèse 28. Si vous vous souvenez bien, cette histoire, c'est une histoire de peau et de bénédiction. Il a fallu qu'un qui prend la peau de l'autre pour venir recueillir une bénédiction. Et moi, ça m'a longtemps perturbé ce texte. Je me dis, mais Seigneur, comment toi qui es un Dieu juste, qui nous enseigne à ne pas mentir, à ne pas nous laisser aller à la tartufferie, comment tu peux te permettre de bénir un roublard qui est venu sous forme maligne et récupérer une bénédiction? En effet, si on regarde les choses de cette manière, nous aurons fait une approche humaine de la justice. Nous n'aurons pas vu la dimension grâce que représente Dieu. Parce que la grâce de Dieu signifie quoi? C'est que tu mérites la condamnation, mais moi, je décide de ne pas te condamner. Que tu mérites la mort, mais moi, je décide de ne pas te donner la mort. Voilà ce que cela signifie. Donc, Ésaü était le bien-aimé du Père. C'est celui que le Père aime. Jacob, il n'est pas éligible à la bénédiction. Mais cependant, il a une intelligence fine des choses de l'esprit. Ce qui n'est pas le cas de son frère aîné, qui a droit à la bénédiction d'après l'ordre de la tradition. Mais avec la complicité de sa maman, qui avait écouté une conversation entre Isaac et son fils bien-aimé Ésaü, a préparé Jacob pour venir récupérer cette bénédiction. Et quand on parle de l'histoire de peau, n'allez pas beaucoup plus loin. C'est l'histoire de revêtement. Nous le voyons dans Genèse déjà. Il a fallu que Adam et Ève soient revêtus pour venir dans la présence de Dieu, obtenir la bénédiction. C'est comme ça qu'il faut voir. Il est rentré dans la peau de Ésaü, Jacob, pour venir recueillir la bénédiction. Le Père ne peut pas faire autrement. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus a pris trois personnes. Pierre, Jean et Jacques. Il les a amenés à la montagne de la Transfiguration. D'abord, Pierre, Jean et Jacques, c'est toute une prédication. Mais je ne le fais pas aujourd'hui. Alors, ils ont vu qu'il y a une transfiguration. Jésus est en train de leur montrer ce qu'ils allaient devenir lorsque lui leur reviendra. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma plénitude, ou dans certaines versions, toute mon affection. Le bien-aimé dans le monde, c'est Jésus. Comme Ésaü qui est le bien-aimé du Père. Vous me suivez là? Le bien-aimé, celui qui fait l'objet de l'affection de Dieu, c'est Jésus. Et quand on vient dans la présence de Dieu le Père, au nom de Jésus, vous ne sortez pas les mains vides. Dieu ne voit plus nos fautes. Dieu ne voit plus les fautes d'Ésaü en tant que trafiquant ici, en tant que voleur. Mais il a vu le revêtement et la bénédiction est tombée. Vous me suivez là? Cette dimension, on ne l'a pas beaucoup. On continue à jouer avec les mérites. J'ai obéi et Dieu me bénit. Et quand je n'obéis pas, Dieu ne me bénit pas. Et souvent, le diable joue dessus. Ah, tu sais ce qui t'arrive là? Tu vois les difficultés que tu as? C'est parce que tu n'as pas fait ça. C'est parce que tu n'as pas fait ça. Et c'est parce que tu as fait ça. Et dans ta tête, ça brouille, ça gronde. Et où est le Dieu d'amour? Vous vous posez la question. Et le diable aurait atteint son but. Si j'étais le diable pour empêcher que vous ayez la bénédiction de Dieu, d'abord vous empêcher d'être converti, de connaître que Jésus est le Fils. Mais si vous parvenez à accepter que Jésus est le Fils, je vais m'arranger de telle manière que toutes les lois de Dieu, les vérités fondamentales qui font la différence, que vous ne l'ayez pas, que votre cerveau soit obscurci. Souvent on dit qu'on ne comprend pas le message. Ce n'est pas le message. C'est que ça gronde dans votre tête et que la lumière a besoin de se faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Abraham. Abraham était avant que la loi de Moïse soit donnée. Vous conviendrez avec moi. La loi est venue après. Mais avant la loi, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu se comporte? Vous vous êtes posé cette question? Écoutez bien. Abraham s'est rendu deux fois coupable de mensonge. OK? Chez Pharaon. Il a dit à Sarah, quand on sera arrivé là-bas, comme tu es très belle, fais comprendre à ces gens-là que tu es ma sœur. Et Sarah n'a pas protesté. Ça y est, il a accepté par consentement. Premier mensonge, Dieu, Abraham. Selon vous, comme Abraham a menti, Dieu aurait pu faire quoi? Si tu veux venir devant moi, va te repentir d'abord avant de venir. Dieu lui a dit ça. Deuxième mensonge. Cette fois-ci, c'est les deux. Mensonge actif. Devant Abimélec, le mensonge d'Abraham a été appuyé par le mensonge de Sarah. Abimélec a pris Sarah, il est allé l'amener dans son harem. Et voilà que Dieu est apparu en songe à Abimélec. Il a dit, attention, si tu touches cette femme, je vais te tuer toi et toute ta maison. Ne porte pas la main sur cette femme, il appartient à un prophète. Ah ? Abimélec a dit, mais Seigneur, tu crois que c'est ma faute ? C'est lui qui a menti, il a dit que c'est sa sœur. Et toi qui es juste, tu viens me frapper, il me dit, oui, je sais que tu es bon de cœur, tu n'as rien fait. C'est pour ça que je suis intervenu, pour que tu ne meurs pas. Alors, voici ce que Dieu a dit, ça m'a vraiment touché. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car son mari, c'est un prophète. Un prophète qui a menti. Notre regard sur les choses de Dieu sont différentes. Abraham vient de mentir plusieurs fois et Dieu considère toujours comme un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu ne renie pas sa fidélité. Dieu, il est fidèle. Même si vous êtes infidèle, Dieu reste fidèle. Dieu ne peut pas se renier. C'est une grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Dieu lui a dit, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. Waouh! Dieu a passé outre les mensonges d'Abraham et l'a appelé prophète, doté du pouvoir de guérison pour la famille d'Abimélec. Comment vous voyez ça? C'est pas une grâce, ça? C'est pas une grâce? C'est merveilleux. Je vous amène petit à petit à ce que vous voyez, vos petites fautes que vous commettez et que le diable utilise comme étant une forteresse pour vous empêcher de regarder Dieu comme un Dieu d'amour. Et c'est comme ça que nous voyons Dieu. Ça se voit. Qu'est-ce que je vais encore prendre encore aujourd'hui en pleine figure? Quelle faute ai-je encore fait que j'ai oublié et que la parole de Dieu va me révéler aujourd'hui pour que je puisse en pleurer ou me repentir? Non, Dieu est un Dieu d'amour. Et ça, nous avons besoin de le comprendre. La grâce est supérieure à la loi. L'amour de Dieu est plus fort que toute autre chose. Maintenant, voyons comment opère le ministère de la grâce ou le ministère de l'Alliance nouvelle, qui dépend non de l'être gravé sur les pierres, mais de l'Esprit, c'est-à-dire de Jésus. Entre Moïse et Abraham, suivez l'histoire. Qui est né avant qui? Abraham, c'est déjà dit. Et entre les trois, entre Moïse, Abraham et Jésus, qui est né avant qui? Et pourtant, Jésus va dire qu'avant qu'Abraham ne soit, je... Hey. C'est que la grâce était même avant. Jésus ne fait que restituer l'originel, pas l'original, l'originel. Ce qui devrait être au début et que le péché a empêché, Jésus est venu, il a enjambé la loi pour nous le restituer. La preuve en est que quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour aller vers la terre de la promesse, ils ont passé beaucoup d'années. Dieu a dit que pendant 40 ans, j'ai pourvu à ton entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, mes enfants. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs pieds ne s'est point enflés. J'étais conduit pendant 40 années et j'ai pourvu à tous tes besoins. Alors que le peuple est en train de murmurer, alors que le peuple est en train de pécher, le peuple est en train de se livrer parfois de l'idolâtrie. Mais Dieu a fermé les yeux à cause de sa grâce. Ah! Comme Dieu ferme les yeux à cause de sa grâce, je peux me permettre de faire tout ce que je veux. C'est ça? Parce que l'apôtre Paul a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais puisque le péché abonde avec la grâce qui surabonde, vais-je me mettre à commettre beaucoup de péchés pour que la grâce surabonde? Non. Il y a un mystère dans la grâce que je m'en vais vous montrer aujourd'hui. Plus on parle du péché, plus la force du mal est là. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et Dieu veut nous ramener à cette conception originelle, en Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de la grâce sans Jésus. La grâce divine s'est manifestée par le pouvoir pour Dieu de condamner, de punir, mais il se garde bien de le faire à cause de sa fidélité. Et comme je vous l'ai dit, c'est à partir du chapitre 19 de Exode que tout s'est détérioré. J'ai été un Dieu bienveillant à leur égard. J'ai contenu ma colère face à leurs péchés parce que je les aime, parce que je vois leur fragilité. Ils n'avaient pas choisi d'être nés pécheurs, mais c'est le péché de Adam et Ève qui traîne au travers de eux. Je ne les frappe pas, je les garde. Mais voilà que ce peuple poussé par le diable va dire, dis à Dieu de nous donner ses lois. Et là, Dieu s'est fâché. Là, Dieu s'est fâché. Il a dit à Moïse, amenez-les sur le mont Horeb, au mont Sinaï. Ils vont voir de leurs propres yeux. Voici ce que Dieu dit. Le ton change. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. On commet de gros péchés, on n'est pas puni de mort. Et voilà que s'approcher simplement d'une seule montagne, Dieu propose de punir de mort. Regarde, le ton a changé. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le lapidera. On le percera de flèches. qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne resterait pas en vie. Et après, au chapitre 20, Dieu va décliner la loi. Dieu va écrire la loi sur la table de la pierre. Dans un premier temps. Et cette loi n'a pas atteint son objectif parce que je crois que Moïse s'est fâché, il a cassé. Ah ouais. Toujours les lois sur les pierres n'atteignent jamais leur objectif. Et Dieu va écrire la loi autrement. Il va sur la table du cœur. Mais ça, on le verra. La loi communique à Moïse l'expression de la volonté de Dieu face à la dureté du cœur de l'homme qui méprise les bienveillances de Dieu Tout-Puissant. Pour le peuple, cette loi est synonyme de la condamnation en raison de son inaptitude naturelle à satisfaire toutes les exigences de la loi divine. Dieu va pousser le peuple, il va le pousser au désespoir pour qu'en fait, il puisse crier à l'aide. « Oh, au secours, Seigneur !» Ah, c'est la meilleure façon d'apprécier la grâce de Dieu. Alors, je vais toucher 4 points rapidement pour avoir fait cette longue introduction, poser les décors, parce que c'est un sujet très délicat. Souvent, on n'utilise pas les bons mots ou les belles images et on ressort parfois plus confus que quand on est rentré. J'espère que maintenant, le brouillard se dissipe et vous êtes en train de voir apparaître le visage bienveillant d'un Dieu d'amour qui veut du bien de notre vie et que votre regard même sur le péché changera. Premièrement, la loi de l'amour par le Christ est supérieure. Est supérieure. Généralement, on compare Moïse à Jésus. Mais Moïse n'est qu'un serviteur. Mais Jésus, lui, il est venu sacrificateur sur sa propre maison. Moïse commet des péchés. Mais Jésus n'en a pas commis. Il a été fait péché. Ce n'est pas pareil. Donc la loi de l'amour est supérieure à la loi de la lettre ou de la pierre. Et c'est ce texte-là qui le dit. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Est-ce que la grâce n'existait pas avant? La grâce existe. Mais simplement, Jésus est venu pour remettre à l'ordre du jour cette grâce qui a été mis sous le sable de la loi. Et Dieu veut le ressurgir. Ainsi, la loi du péché que Dieu a suspendue par amour pour le peuple entre en vigueur. C'est pour ça, autour de Mont Horeb, il y a 3000 morts. Dieu a dit que celui qui touchera juste la montagne enfumée, il meurt. Il y a ce jour-là, 3000 morts. Et vous allez voir qu'à la Pentecôte, lorsque Pierre va commencer à annoncer Jésus-Christ, le vecteur de la grâce, il y a eu combien? 3000 personnes converties. 3000 morts par la loi et 3000 vivants par la grâce. Voilà, on compare ce ministère de la mort et le ministère de la vie. Le ministère de la pierre et le ministère de l'esprit. Et nous sommes dans le contexte du ministère de l'esprit qui a été donné par Jésus. Et il a fait avec le tout accompli. Ainsi, la grâce par Jésus rend possible 3 éléments. Premièrement, il applique aux croyants l'œuvre de Christ qui rend possible notre justification. On est justifié. Alors, quand je poserai la question ce matin, je dis que qui est juste? Je suis sûr et certain que certains vont hésiter. Ils vont dire que oui, mais je suis juste, mais injuste, péché, machin. Non, non, vous êtes justifié. Vous êtes juste, malgré que vous vous êtes mis en colère ce matin, ou malgré que vous avez laissé échapper des mots qui ne sont pas agréables à écouter, ou malgré que vous avez laissé votre cœur être acheminé vers des pensées qui sont répréhensibles. Vous êtes justifié, parce que Dieu ne vous regarde pas tant que tel, il vous regarde à travers le Christ. Si Dieu vous regarde avec le Christ, il n'y a aucun péché qui existe. Vous me suivez là? Cette dimension-là, on ne le voit pas beaucoup. Même dans nos confessions de péché, on rend toujours présent le péché, mais on ne rend pas présent la grâce. Il intègre le croyant à la nouvelle création. Ça, c'est le deuxième point. Et troisièmement, il donne aux croyants la puissance de lui permettre de vaincre le péché. Et c'est le point 2 que je vais développer tout à l'heure. La grâce donne aux croyants une puissance intérieure de dominer le péché. C'est comme si en vous, vous avez un recycleur. En vous, vous avez une machine à laver. Lorsque le péché vient, la puissance de Jésus en vous commence à travailler pour vous rendre pur. Maintenant, j'arrive au point 2. Comment bénéficier de cette grâce et la vivre? Parce que là, toute la question. Savoir dans la loi que là, j'ai des devoirs et des obligations, c'est une bonne chose. Mais si je ne vis pas mes devoirs et mes obligations, et que ce à quoi je suis appelé à bénéficier, si je ne le sais pas, je ne le saurai pas. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ah, qu'est-ce que cela veut dire, ce texte? C'est qu'on peut s'en priver. On peut s'en priver par ignorance. On peut s'en priver par une mauvaise conception. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de troubles en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Ça, j'y reviendrai. D'abord, c'est l'objet de la prière de la semaine d'avant, qu'il croisse et que je diminue, qui va encore beaucoup plus loin dans Galates chapitre 2, verset 20, que je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ, il pêche? Est-ce que Christ commet le péché? Dites-moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Moi, mon nom disparaît, c'est Christ qui vit en moi. Le Samuel n'existe plus. C'est Christ qui vit en moi. Et même si je pêche, je vis dans la foi. Est-ce que Christ a enlevé le péché, oui ou non? Oui. Avant même que j'aie péché, le péché a déjà été enlevé. D'où la nécessité de dire, Seigneur, j'ai commis une faute. Je préfère utiliser le terme faute. Ce n'est pas pour perturber tout ce qui a été établi, hein, c'est juste pour apporter un éclairage. Dieu comprend si on dit péché. Parce que le péché a deux concepts. C'est la nature adamique qui est en nous, qui est cette force qui nous pousse à faire le mal. J'ai envie de faire le bien, je ne le fais pas. Mais le mal que je n'ai pas envie de le faire, je le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui agit en moi qui me pousse à faire le mal. Ça, c'est le péché. Mais quand je deviens converti, quand j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je suis infaillible. Je ne commets pas de péché. Là, je commets des péchés, mais des péchés individualisés qu'on appelle les fautes. C'est différent. Et là, j'ai besoin de me repentir. Et même parfois, j'oublie. Toutes les fautes que nous commettons, nous ne les citons pas tous dans la confession. Normalement, si Dieu veut tenir compte de sa grâce pour avoir oublié, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as oublié. Travaille ta tête jusqu'à ce que tu t'en souviennes au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 40 ans. Lorsque tu t'en serais souvenu, je te bénirai. Waouh! Mais si telle est la vie chrétienne, mais non. Dieu tient compte de nos péchés même par omission. Même avant que nous ayons commis, la grâce de Christ est là. Et c'est là où j'en arrive, au point 3. Qu'en est-il de péché finalement? Qu'en est-il des fautes commises sous la grâce? Écoutez bien. En effet, et nous l'avons lu dans le chant tout à l'heure, en effet, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous. Vous êtes en Jésus. Il pleut, mais vous êtes en Jésus. Le soleil frappe, mais vous êtes en Jésus. Il vente dehors, mais vous êtes en Jésus. C'est pourquoi la position, la vie chrétienne est une vie d'opposition. Si nous ne sommes pas en Christ, on n'est pas une nouvelle créature. La naissance nouvelle prend toute sa force. Cette naissance nouvelle, parfois, on ne fait pas attention. Il nous soustrait au pouvoir du diable pour nous introniser dans la présence de Dieu. Dieu nous arrache entre les mains du diable. Il nous arrache à ce monde et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et nous sommes dans une position de supériorité. Quand vous descendez de votre lit, vous dites que je suis en Christ. Le péché n'aura aucun pouvoir sur moi aujourd'hui. Je suis en Christ. Dites-le jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Le péché n'aura aucun pouvoir. Et même si vous le commettez, ce que cela signifie. Parce que Jésus, il est là. Le sang de Christ est suffisamment puissant pour enlever toutes les stigmates et les conséquences du péché. Alors, un peu d'histoire, ça vous ferait du bien. Dans Luc chapitre 23, il était question des bons larrons. Je ne sais pas s'il y a de mauvais larrons, il y a de bons. Bon, je ne sais pas en quoi celui-ci il est bon. Oui, il est bon parce qu'il a compris qu'il a commis une faute et qu'il a reconnu Jésus. Malgré son apparence humaine, il a vu dans cet homme quelque chose que l'autre qui est à sa gauche n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas. Waouh ! Quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas. Après avoir fait la remarque à l'autre, il a dit que toi et moi, nous sommes là parce qu'on a braqué les banques, on a tué les gens. Nous n'avons que ce que nous méritons. Mais cet homme-là, il n'a rien fait. Après, il s'est tourné vers Jésus, il a dit, Seigneur, waouh, il a appelé Seigneur. Quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas. Et Jésus lui dit, tu seras avec moi. Il a été baptisé, il a fait le caté. Combien de versets il a connu, lui-là ? De Genèse à Apocalypse, il a connu combien de versets ? Sur l'instant, voilà la grâce. Voilà la grâce. Ne soyez pas étonnés qu'il y a des gens que vous avez estimés dans votre tête qui ils sont sur l'autoroute de l'enfer. Vous serez étonnés de les voir dans la présence du Seigneur. Ah oui, voilà la grâce. Mais cependant, lorsque nous croyons en Jésus et que nous ne sommes pas enlevés et que nous vivons encore, il y a des conditions à remplir. Vivre dans la sainteté, parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous portons d'autres fruits. On ne porte plus le fruit de la méchanceté, mais on porte le fruit de la grâce. On porte le fruit de l'amour. On porte le fruit de la bienveillance. On porte le fruit de la vie et même notre corps. Parce qu'il est dit que lorsque nous, le visage découvert, nous voyons le Fils, nous sommes transformés de gloire en gloire. Gloire en gloire. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts sur le Jésus. Et jour après jour, nous sommes transformés. Que vous vous dormiez, vous êtes transformés. Que vous êtes en éveil, vous êtes transformés. Vous êtes meilleur aujourd'hui qu'hier. Et demain, vous serez encore meilleur qu'aujourd'hui. Et la dynamique est lancée jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Une autre histoire. Ça concerne les femmes, mais c'est nous tous. C'est l'histoire de la femme avec les pertes de sang que nous retrouvons dans Marc, chapitre 5. Cette femme avait tout dépensé ce qu'elle avait dans sa maison pour pouvoir se soigner. Elle n'est pas parvenue. Mais elle a entendu parler de Jésus. Quand elle voulait avoir accès à Christ, il y a tellement la foule qu'elle n'a pas accès. Elle contourne et ne parvient pas, Elle a dit, qu'est-ce que je veux faire ? Elle s'est cachée. Une femme avec une perte de sang, d'après la loi, elle fait quoi ? D'après la loi. Oh. Vous voyez ? La loi l'aurait exclue. Mais elle savait très bien que cet homme porte quelque chose que la loi n'a pas pu donner. Elle s'est faufilée. Il y a des gens qui touchaient Jésus, non ? Mais quand cette femme a touché la robe de Jésus, Jésus s'est retourné, il a dit « Quelqu'un m'a touché ». Pierre lui a dit « Mais Seigneur, oh, 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 oh ». Et regarde tout ce monde-là en train de te toucher à gauche, à droite, et tu dis que quelqu'un m'a touché. Il dit que non, vous me touchez, mais pas avec foi. Il y a une personne qui m'a touché avec foi parce que j'ai senti une force dégager de moi. Et la femme, en train de trembler, dit, Seigneur, c'est moi. Jésus l'a regardé avec un regard d'amour. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, t'es guéri. Va en paix. C'est pas mieux ça. Jésus lui avait demandé, bon, tu as besoin de guérison ? Va jeûner 2 jours. Tu fais ceci, tu fais cela pour obtenir. La... Non, je suis là. Et le meilleur des meilleurs vient. Le meilleur des meilleurs vient dans cet exemple-là. Souvent, on fuit le monde pour dire, allez, on fuit le monde parce qu'on va être contaminé par le monde. Écoutez bien. L'histoire du lépreux au contact de Jésus. D'après la loi, quand quelqu'un est atteint de lèpre, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. On le prend, on le met dans la vallée de Hinnon. Et lorsqu'il est en train de marcher et qu'il voit quelqu'un de saint venir devant lui, il a dit « impur, impur ». Ah, la personne prend l'autre côté. On les exclut de la société. Et même quand il touche quelqu'un, celui qui, la malade qui contamine le bon portant, la loi interdit. La loi interdit. Quelle rupture de socialisation. Pourtant, dans la société là pour aider les plus faibles, même les malades, pour pouvoir les rattraper. Mais là, il n'y a même pas possibilité. La loi interdit d'aimer. Même ta propre mère, même ton propre père, tu n'as pas le droit de le toucher. Mais pourquoi il t'a mis au monde alors? Les parents sont sacrés. Ne vous débarrassez pas d'eux en les mettant aux EHPAD. Même si vous les mettez, soyez toujours là pour les entourer. La tendresse, c'est notre devoir. Mais en France, je ne vois pas beaucoup. On se bagarre pour hériter ce que les autres ont travaillé durant leur vie, mais pour leur communiquer simplement l'amour, ça devient difficile. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Histoire du lépreux. Jésus est venu la vie du lépreux. Normalement, d'après la loi, Jésus devait prendre la route de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un qui dit, Seigneur, si tu veux, rends-nous purs. Jésus les a touchés, ça y est. Il dit, allez voir le sacrificateur. Pendant que vous me quittez pour aller voir le sacrificateur, votre peau va repousser, vous serez joli comme la peau de Naaman. Ici, qu'est-ce qui a contaminé? Si nous prenons la grâce de l'autre côté, nous prenons le péché de l'autre côté. Qu'est-ce qui est beaucoup plus fort? Le péché ou la grâce? Alors, contaminons le monde avec la grâce de Dieu. N'ayez pas peur. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une force que Dieu renouvelle en vous, qui vous donne de dominer le péché. Même si le péché a des impulsions en vous, cette grâce, par sa puissance, brise la force du péché, de l'iniquité. Et il vous remplit de la puissance de Dieu, pour que le péché n'ait aucun pouvoir sur vous. Parce que la Bible le dit. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Si je peux avoir ce verset. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Je crois que ce verset, vous ne devez pas l'oublier. 1 Jean 4, 17. J'attends, ça arrive. Ah oui, oui, oui. Parce que nous voulons le lire ensemble avec vous. 1 Jean, épître de Jean, chapitre 4, verset 17. Parce que ce verset, il est très puissant. Voilà, voilà. Regardez. Voici comment l'amour est parfait en nous. Parce que l'amour, c'est Dieu. Hein? L'amour, la définition de l'amour, c'est Dieu. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Deux points. Voilà cette phrase-là. N'oubliez pas. Tel il est, lui, tel nous, où? Tel il est, lui, Jésus, tel nous sommes dans le monde. Jésus a guéri le lépreux. Ah oui, si Jésus a guéri le lépreux, moi aussi j'en ferai autant. C'est les capacités de Christ qui sont en nous. Quand vous vous déplacez, c'est Jésus qui est avec vous. Aussi petit que soit-il. Quand vous vous déplacez, c'est Dieu qui est avec vous. Parce que vous êtes dans le sein de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans le sein de Dieu, Dieu est inébranlable. Même si le monde bouge. Dieu a dit à Isaïe, même si les montagnes s'enflamment, même si la terre se crevasse, moi, je reste avec vous. Donc quand on est dans le sein de Dieu, tout bouge autour de nous, tout s'éclate, il y a la guerre, mais comme personne ne peut gagner Dieu, ne peut vaincre Dieu, comme nous sommes à l'intérieur de Dieu, rien ne nous touche. Notre vie est cachée avec Jésus, en qui? Voilà la protection. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Voilà le chantier. À la stature parfaite de Christ, ça c'est le signe de maturité. Quand on parle de maturité chrétienne, on en arrive là. Et souvent, parfois, on développe les concepts théologiques, mais on oublie ce fait pratique qui doit opérer en nous. Voilà tout le pouvoir opératoire de la grâce. La grâce opère ici. Est-ce que j'ai toujours compris, moi? Non. Il a fallu, au cours de l'histoire de ma vie que j'ai eue, Et la grande révélation m'est venue pendant ce week-end. Je priais pour l'Église, pour chacun d'entre vous. Vous ignorez que je prie pour chacun d'entre vous, je le fais tout le temps. Famille par famille, personne par personne. Et quand je prie pour vous et que je sens que mon esprit est en train de bouger dans ma tête, c'est que vous êtes en difficulté. Et je change de ton de prière, je prends l'autorité. Voilà. Donc, ça, nous devons l'intégrer. Il m'a donné une image que j'avais vécue quand j'étais encore étudiant. On faisait des stages dans les banques. On nous apprenait avant que les machines à compter les sous arrivaient, à compter les billets. Mais on travaillait notre doigt à compter les bons billets. Et parfois, le coach de stage, il met deux ou trois faux billets à l'intérieur pour voir si est-ce qu'ils seront capables de le décoder. Et parfois, quand une arrive, on le sent. Dieu a dit que c'est comme ça qu'il faut le faire. Présente-leur la grâce. Laisse tomber à ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Si ne pas faire, ne pas faire et tout le temps prêcher, les gens seront tendance à continuer à aller pécher. Mais lorsque tu présentes la grâce, le pouvoir du péché est résorbé tout seul. Si c'est bien compris, bien sûr. Voilà le message de Dieu. Comment vivre sous la grâce? Et j'en termine. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée, ah, ça c'est Tite chapitre 2, qui fait l'objet de la convention il y a 2 ans. Et Clément, ça fait une prédication remarquable. Si vous pouvez trouver cette prédication, waouh. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions du monde. Mépris de Dieu. Quand on regarde les gens méprisent Dieu. Parfois, je discute avec les gens, ils disent, mais ce qui se passe là, comment Dieu, nous les chrétiens, nous tournons en dérision. Je dis, moi, j'ai appris à ce que Dieu se défende lui-même. Ah oui, parce que si c'est Dieu qui se défend lui-même, ils sont fichus. Mais si c'est moi qui défends Dieu, qui suis-je pour défendre Dieu? Le mépris de Dieu dans ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans les temps présents, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, afin que se réalisent de nombreuses espérances les bienfaits de Dieu. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de nous, et de faire de nous, en nous purifiant, ainsi un peuple qui lui appartient. Voilà tout ce que je voulais placer dans votre cœur ce matin. Elle est un peu longue, mais j'ai pris le temps pour pouvoir le décoder, pour arriver jusqu'au bout. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Laissons Dieu agir en nous. Il a tout le pouvoir de dominer le péché, de nous transformer. Notre volonté, ce sera la sienne. Et il va tout toucher. Il va tout investir. Il va tout purifier. La grâce, source de salut. La grâce, c'est Jésus. La grâce est supérieure à la loi. Voilà le message que j'aimerais vous partager. Alors, il faut que je me justifie. Pourquoi j'ai pris du temps pour aller beaucoup plus loin? Parce que souvent, les prédications de ce genre, quand je coupe en deux, pour faire une partie, je fais une partie, je ne retrouve pas le même auditoire. Parfois, l'auditoire qui a écouté le premier message n'est pas le même qui écoute le second. Et celui qui écoute le second n'est pas le même qui écoute le premier, ce qui fait que le message est déséquilibré. Et donc, je fais le maximum, puisque je n'ai pas le temps de vous réunir, et je prends le temps de communiquer cela dans votre cœur. Soyez bénis. Amen.